Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté. Et après la semaine dernière où nous avons écoutez quelques textes autour de la Commune, je vous propose aussi cette semaine une petite balade poétique qui nous permettra de voyager de texte en texte et d'auteur en auteur. Et nous allons commencer cette semaine par un hommage à ce grand poète du XIXe siècle, Charles Baudelaire, dont nous fêtons aujourd'hui le 200e anniversaire de sa naissance. Charles Baudelaire, donc, qui est essentiellement célèbre pour son recueil « Les fleurs du mal ». On peut préciser qu'il publie ce recueil en 1857 et que c'est un recueil de poèmes qui est aussitôt condamné pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Donc Baudelaire et son éditeur doivent payer une lourde amende. Une nouvelle édition est proposée en 1861, d'où sont supprimés 6 poèmes conformément au jugement prononcé. La demande de réhabilitation des fleurs du mal devant la Cour de cassation aboutira en mai 1949, longtemps après la mort de Baudelaire, donc, et annulera les précédentes condamnations. Dans Les fleurs du mal, Baudelaire met en lumière la dualité entre la violence et la volupté, le bien et le mal, la laideur et la beauté, l'enfer et le ciel. Nous allons donc écouter quelques poèmes des fleurs du mal que nous alternerons avec quelques autres poèmes de Baudelaire tirés de son autre recueil, Le spleen de Paris, des petits poèmes en prose. Donc, Les fleurs du mal, Baudelaire. L'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, les navires glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur est laid, comme il est gauche et veule. Lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Élévation. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux, celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité vaste, comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Chacun sa chimère. Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourniment d'un fantassin romain. Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte, au contraire. Elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants. Elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture, et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi. Je questionnai l'un de ces hommes et je lui demandai où il allait ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les autres, mais qu'évidemment ils allaient quelque part, puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. Chose curieuse à noter, aucun des voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir. Sous la coupole splinétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d'un sol aussi désolé que le ciel, ils cheminaient, avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. Et le cortège passa à côté de moi et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon, à l'endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain. Mais pendant quelques instants, je m'obstinai à vouloir comprendre ce mystère. Mais bientôt, l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi et j'en fus plus lourdement accablé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes par leurs écrasantes chimères. Le vieux saltimbanque. Partout s'étalait, se répandait, s'ébaudissait le peuple en vacances. C'était une de ces solennités sur lesquelles, pendant un long temps, comptent les saltimbanques, les faiseurs de tours, les montreurs d'animaux et les boutiquiers ambulants pour compenser les mauvais temps de l'année. En ces jours-là, il me semble que le peuple oublie tout, la douleur et le travail. Il devient pareil aux enfants. Pour les petits, c'est un jour de congé, c'est l'horreur de l'école renvoyée à 24 heures. Pour les grands, c'est un armistice conclu avec les puissances malfaisantes de la vie, un répit dans la contention et la lutte universelle. L'homme du monde lui-même et l'homme occupé de travaux spirituels échappent difficilement à l'influence de ce jubilé populaire. Ils absorbent sans le vouloir leur part de cette atmosphère d'insouciance. Pour moi, je ne manque jamais en vrai parisien de passer la revue de toutes les baraques qui se pavanent à ces époques solennelles. Elles se faisaient en vérité une concurrence formidable. Elles piaillaient, beuglaient, hurlaient. C'était un mélange de cris, de détonations de cuivre et d'explosions de fusées. Les queues rouges et les jocrisses se convulsaient les traits de leurs visages basanés, racornis par le vent, par la pluie et le soleil. Ils lançaient avec l'aplomb des comédiens, sûrs de leurs effets, des bons mots et des plaisanteries d'un comique solide et lourd comme celui de Molière. Les Hercules, fiers de l'énormité de leurs membres, sans front et sans crâne, comme les orang-outans, se prélassaient majestueusement sous les maillots lavés la veille pour la circonstance. Les danseuses, belles comme des fées ou des princesses, sautaient et cabriolaient sous le feu des lanternes qui remplissaient leurs jupes d'étincelles. Tout n'était que lumière, poussière, cris, joie, tumulte. Les uns dépensaient, les autres gagnaient, les uns et les autres également joyeux. Les enfants se suspendaient aux jupons de leur mère pour obtenir quelques bâtons de sucre ou montaient sur les épaules de leur père pour mieux voir un escamoteur éblouissant comme un dieu. Et partout circulait, dominant tous les parfums, une odeur de friture qui était comme l'encens de cette fête. Au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si honteux il s'était exilé lui-même de toutes ses splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit, une ruine d'homme, adossé contre un des poteaux de sa cahute, une cahute plus misérable que celle du sauvage le plus abruti, et dont deux bouts de chandelle, coulant et fumant, éclairaient trop bien encore la détresse. Partout la joie, le gain, la débauche, partout la certitude du pain pour les lendemains, partout l'explosion frénétique de la vitalité, ici la misère absolue, la misère affublée pour comble d'horreur de haillons comiques où la nécessité bien plus que l'art avait introduit le contraste. Il ne riait pas, le misérable, il ne pleurait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait pas, il ne chantait aucune chanson, ni gaie, ni lamentable, il n'implorait pas, il était muet et immobile, il avait renoncé, il avait abdiqué, sa destinée était faite. Mais quel regard profond, inoubliable! Il promenait sur la foule et les lumières dont le flot mouvant s'arrêtait à quelques pas de sa répulsive misère. Je sentis ma gorge serrée par la main terrible de l'hystérie, et il me sembla que mes regards étaient offusqués par ces larmes rebelles qui ne veulent pas tomber. En me retournant, obsédé par cette vision, je cherchais à analyser ma soudaine douleur et je me dis « Je viens de voir » l'image du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur, du vieux poète sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer.
La très chère était nue, connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. « quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur. Ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et du haut du divan elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses, et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras et sa jambe et sa cuisse et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre et ses seins, ses grappes de ma vigne. S'avançait plus câlin que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal où calme et solitaire elle s'était assise. Je croyais voir unie par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste de l'imberbe, dans sa taille faisait ressortir son bassin, sur ce teint fauve et brun le phare était superbe. Et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'or.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Nous revenons donc à Charles Baudelaire et à ses textes, extraits de Les fleurs du mal et du spleen de Paris. Bohémiens en voyage. La tribu prophétique aux prunelles ardentes, hier s'est mise en route, emportant ses petits sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits le trésor toujours prêt des mamelles pendantes. Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes le long des chariots où les leurs sont blottis, promenant sur le ciel des yeux appesantis par le morne regret des chimères absentes. Du fond de son réduit sablonneux, le grillon, les regardant passer, redouble sa chanson. Si belle qu'il les aime, augmente ses verdures, fait couler le rocher et fleurir le désert devant ses voyageurs, pour lesquels est ouvert l'empire familier des ténèbres futures. La vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux et que les grands piliers droits et majestueux rendaient pareils le soir. aux grottes basaltiques. Les houles, en roulant les images des cieux, mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu, dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs et des esclaves nus, toutes imprégnées d'odeurs qui me rafraîchissaient le front avec des palmes et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. L'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. À 1h du matin. Poème en prose. Enfin, seul. On n'entend plus que le roulement de quelques fiacres attardés et éreintés. Pendant quelques heures, nous posséderons le silence, sinon le repos. Enfin. La tyrannie de la face humaine a disparu et je ne souffrirai plus que par moi-même. Enfin. Il m'est donc permis de me délasser dans un bain de ténèbres. D'abord un double tour à la serrure. Il me semble que ce tour de clé augmentera ma solitude et fortifiera les barricades qui me séparent actuellement du monde. Horrible vie. Horrible ville. Récapitulons la journée. Avoir vu plusieurs hommes de lettres dont l'un m'a demandé si l'on pouvait aller en Russie par voie de terre. Il prenait sans doute la Russie pour une île. Avoir disputé généreusement contre le directeur d'une revue qui, à chaque objection, répondait « C'est ici le parti des honnêtes gens !» Ce qui implique que tous les autres journaux sont rédigés par des coquins. Avoir salué une vingtaine de personnes, dont 15 me sont inconnues, avoir distribué des poignées de main dans la même proportion, et cela sans avoir pris la précaution d'acheter des gants. Être monté pour tuer le temps pendant une averse, chez une sauteuse qui m'a prié de lui dessiner un costume de Vénustre. D'avoir fait ma cour à un directeur de théâtre qui m'a dit en me congédiant « Vous feriez peut-être bien de vous adresser à Z. » C'est le plus lourd, le plus sot et le plus célèbre de tous mes auteurs. Avec lui, vous pourriez peut-être aboutir à quelque chose. Voyez-le et puis nous verrons. M'être vanté. Pourquoi ? De plusieurs vilaines actions que je n'ai jamais commises et avoir lâchement nié quelques autres méfaits que j'ai accomplis avec joie. Délits de fanfaronnade, crimes de respect humain. Avoir refusé à un ami un service facile et donné une recommandation écrite à un parfait drôle. Ouf, est-ce bientôt fini ? Mécontent de tous et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et m'enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. âme de ceux que j'ai aimés, âme de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde. Et vous, Seigneur, mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise. Les foules. Il n'est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude. Jouir de la foule est un art. Et celui-là seul peut faire aux dépens du genre humain une ribote de vitalité à qui une fée a insufflé dans son berceau le goût du travestissement et du masque, la haine du domicile et la passion du voyage. Multitude, solitude, termes égaux et convertibles pour le poète actif et fécond. Qui ne sait pas peupler sa solitude ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée. Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui, comme ces âmes errantes qui cherchent un corps. Il entre quand il veut dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est vacant. Et si de certaines places paraissent lui être fermées, c'est qu'à ses yeux, elles ne valent pas la peine d'être visitées. Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion. Celui-là qui épouse facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses dont seront éternellement privés l'égoïste, fermé comme un coffre, et le paresseux interné comme un mollusque. Il adopte comme sienne toutes les professions, toutes les joies et toutes les misères que la circonstance lui présente. Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Il est bon d'apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce que pour humilier un instant leur sot orgueil, qu'il est des bonheurs supérieurs aux leurs, plus vastes et plus raffinés. Les fondateurs de colonies, les pasteurs de peuples, les prêtres missionnaires exilés au bout du monde connaissent sans doute quelque chose de ces mystérieuses ivresses. Et au sein de la vaste famille que leur génie s'est faite, ils doivent rire quelquefois de ceux qui les plaignent pour leur fortune si agitée et pour leur vie si chaste. La chevelure. Ô toison moutonnant jusque sur l'encolure, ô boucle, ô parfum chargé de nonchaloir, extase, pour peupler ce soir l'alcôve obscure, des souvenirs dormant dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air, comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêt aromatique. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas où l'arbre et l'homme, plein de sève, se pâment longuement sous l'ardeur des climats fortes tresses. Soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mère d'ébène, un éblouissant rêve de voiles, de rameurs, de flammes et de mâts. Un port retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum, le son et la couleur, où les vaisseaux glissant dans l'or et dans la moire ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé, et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues de l'huile de coco, du musc et du goudron longtemps. Toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je hume à long trait le vin du souvenir? Spleen. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, qui de ses précepteurs, méprisant les courbettes, s'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes. Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Du bouffon favori, la grotesque ballade ne distrait plus le front de ce cruel malade. Son lit fleur-de-lysé se transforme en tombeau, et les dames d'atour, pour qui tout prince est beau, ne savent plus trouver d'impudique toilette pour tirer un sourire de ce jeune squelette. Le savant qui lui fait de l'or n'a jamais pu de son être extirper l'élément corrompu. Et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent, et dont sur leurs vieux jours les puissants se souviennent, il n'a su réchauffer ce cadavre hébété où coule au lieu de sang l'eau verte du l'été. Voici donc pour ce soir donc ces quelques textes tirés de l'œuvre de Baudelaire, Les fleurs du mal et Le spleen de Paris. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir et à demain pour d'autres balades poétiques.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.